Au programme de ce jeudi, à la librairie Le Tracteur Savant de Saint-Antonin-Nobleval, rencontre avec Aurélien Berland autour de son livre publié aux éditions La Lenteur, le livre Terre et Liberté, la quête d'autonomie contre le fantasme et de la délivrance. Aurélien Berland est au bout du fil de mon téléphone. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie, traducteur et professeur à l'Université de Toulouse, par ailleurs jardinier. Vous avez donc publié cet ouvrage autour de la liberté, donc en partant du postulat de départ qu'on essaye de se décharger de notre vie matérielle, des tâches de subsistance de la vie quotidienne, en passant par l'esclavage jusqu'à Siri et Alexa, auxquelles on ordonne de faire nos petites tâches quotidiennes, et que cette décharge, en fait, nous complique plus la vie qu'elle ne nous l'arrange.
C'est ça. En fait, moi, je me demandais, ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'il y a une très grande confusion autour de la notion de liberté. Et qu'il y a beaucoup d'ailleurs de débats autour de ça, et donc je me suis lancé dans une petite enquête pour essayer d'y voir un petit peu plus clair.
Une enquête.
Et je me suis rendu compte que derrière l'idée dominante de quand on pense au mot liberté, on pense tout de suite à la démocratie ou bien aux droits de l'homme, voilà, mais que derrière cette vitrine constitutionnelle ou institutionnelle de la liberté, il y avait quelque chose de très matériel dans notre conception qui permettait d'expliquer peut-être certains paradoxes dans lesquels on se trouve aujourd'hui, soit sur le plan écologique, soit sur le plan social. C'est que en fait, là, par liberté, on entend aussi le fait d'être délivré des tâches matérielles de la vie, des activités de subsistance. Des activités un petit peu basiques comme le fait de construire sa maison, de produire sa nourriture, de s'occuper des personnes dépendantes autour de nous, etc. Tout ça, on pense qu'on est vraiment libre que quand on est délivré de tout ça. Mais si on y réfléchit bien, pour être délivré de toutes ces activités, il n'y a pas 36 solutions. Soit on s'en décharge sur les épaules d'autres personnes qui du coup les prennent en charge à notre place. Et donc ça, c'est le rôle des esclaves, des serfs, des domestiques, des ouvriers dans l'histoire. Soit on fait en effet faire toutes ces tâches par des robots. On s'imagine ou on se dit qu'on va construire des robots qui vont permettre de faire tout ça. Donc en effet, dans ce cas, on peut être bien tous délivrés. Il n'y aura pas des privilégiés qui se délivrent sur les épaules d'esclaves ou de domestiques qui eux doivent tout prendre en charge, avoir la double peine. Mais par contre, cette multiplication des robots et des machines, eh ben, nous précipite, on le sait désormais, dans un avenir écologique tout à fait chaotique et problématique. Et donc, voilà, c'était ça que j'ai essayé de comprendre, parce que depuis des années, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que notre conception moderne de la liberté avait contribué à nous amener dans cette situation écologique très préoccupante. Et donc, moi, j'ai essayé de déterminer ce qui, dans la liberté, nous avait mis dans cette situation. Donc, c'est pas la démocratie le problème, c'est pas les droits de l'homme le problème, c'est bien cette volonté de délivrance matérielle.
D'où le paradoxe écologique et social que ça engendre. Vous avez parlé d'une enquête.
Oui, bah j'ai mis 10 ans à écrire ce livre, parce qu'en fait, l'idée liberté est très embrouillée, très très compliquée. Et donc ça met du temps, ça prend du temps pour se clarifier les choses. Et donc je me suis lancé dans une grande enquête, beaucoup de lectures, beaucoup de discussions à droite et à gauche. Et donc ça m'a mis du temps en effet pour essayer de clarifier tous les problèmes liés à l'idée de liberté.
Vous prenez plutôt une réappropriation de la part matérielle de nos vies avec une prise en charge collective et égalitaire des besoins de base.
C'est ça, c'est dans cette enquête, donc il y avait plusieurs, cette enquête elle avait plusieurs motifs, elle partait de son sentiment que l'idée de liberté est de plus en plus embrouillée. Ben là on le voit aujourd'hui puisque c'est des partis d'extrême droite qui font campagne autour de la défense des libertés, ce qui est quand même un petit peu contre-intuitif. Et par ailleurs on sait que dans nos états libéraux, voilà, il y a des systèmes de surveillance électronique de masse qui ont été mis en place par l'administration américaine, mais aussi en France et un peu partout. Et donc ça veut dire qu'au cœur même du monde libéral, le principe de base de la liberté libérale, c'est-à-dire l'inviolabilité de la vie privée, est bafoué. Donc on voit qu'on est dans une situation complexe, donc j'avais envie de clarifier ça. Et il y avait autre chose que je voulais clarifier, c'était l'aspiration à l'autonomie qui se fait jour aujourd'hui de plus en plus de gens plus ou moins jeunes ont envie de développer des formes de vie plus autonomes, de formes de retour à la terre, de réinstallation à la campagne, de prendre en main leur quotidien, de bricoler de faire les choses eux-mêmes, de bricoler. Voilà plein de réappropriations d'activités dont la modernité prétendait délivrer toute l'humanité et prétendait que ce serait bien. Et donc, voilà, cette enquête, elle est partie aussi face à ce phénomène de quête d'autonomie qui traverse notre société. Je me demandais qu'est-ce qu'il y avait derrière quête d'autonomie, donc énergétique, alimentaire, médicinale. Voilà, et donc j'ai essayé de clarifier ça pour essayer de mieux comprendre. Et en fait, derrière, je me suis rendu compte qu'il y avait une idée de liberté très forte et complètement contradictoire avec la liberté dominante que j'ai décrite tout à l'heure comme délivrance, qui est que être libre, c'est prendre en charge les nécessités matérielles et sociales de la vie quotidienne, non pas être déchargé ou se décharger sur les épaules d'autrui, mais prendre en charge nous-mêmes, et que ça donne un sentiment de liberté qui est souvent exprimé par les gens quand ils disent, quand ils font leur confiture, leur conserve, leur potager, ils disent souvent, ah ben ça me donne un sentiment de liberté, au-delà des bénéfices économiques, il y a autre chose qui se joue là-dedans.
Alors oui, l'économie, quand on parle liberté, on voit un rapport à l'argent, se décharger de nos contraintes matérielles sur une femme de ménage ou bien sur un employé ou n'importe quoi, c'est pour avoir un petit peu plus de temps. Le temps qu'on consacre à jardiner notre lopin de terre n'est pas investi dans une rémunération. Vivre du RSA, c'est être plus libre.
Alors il y a des gens qui pourraient aller jusque là, mais il y a aussi autre chose qui se joue dans la liberté, c'est un certain rapport à notre milieu de vie, un certain sentiment de maîtrise de notre avenir et de nos conditions concrètes de vie. Or, quand on dépend soit du RSA, soit d'un salaire plus ou moins précaire pour se procurer tout ce dont on a besoin pour vivre, eh ben on peut se sentir, surtout quand on n'a pas un CDI, on peut se sentir dans une situation un petit peu précaire sur le plan matériel. Alors que des gens qui ont pris l'habitude de faire leur potager, de se chauffer au bois, de faire leur propre bois, d'avoir beaucoup d'autonomie matérielle, peuvent se dire, le système peut se casser la gueule, le coronavirus peut bloquer toutes les chaînes de distribution du monde entier, moi de toute façon j'aurai de quoi nourrir mes gosses et de quoi me chauffer, parce que je suis pas dépendant d'un méga système technique qui est très puissant mais qui est aussi extrêmement fragile.
Alors le méga système, on peut y venir directement. Aurélien Berland, on s'est rencontré la dernière fois parce que vous êtes le traducteur de La Méga Machine, autre ouvrage qui est paru, je ne me rappelle plus de l'édition.
Au Seuil.
Voilà. Vous faites un lien un petit peu quand même avec cette méga machine.
Tout à fait. J'ai cherché dans cet essai à essayer de dégager l'imaginaire qui avait permis, qui avait favorisé la constitution de cette méga machine industrielle ou capitaliste ou thermo-industrielle. Les termes varient chez les auteurs qui analysent ce phénomène-là, mais qui coïncide avec la modernité, ce qu'on appelle la modernité aussi occidentale, ou la civilisation capitaliste et industrielle. Bien sûr, le fait de le capitalisme ou l'industrie prospère sur le fait de prendre en charge de manière de plus en plus centralisée la production des besoins de base, au prétexte ou au motif que ça permet de faire des économies d'échelle, que ça permet de rationaliser, qu'il vaut mieux que, plutôt que chaque personne fasse ses confitures dans son coin, ce serait plus rationnel qu'il y ait juste quelques ouvriers avec plein de machines qui fassent des confitures pour tout le monde dans un ou deux sites de production en France. Bien sûr, on voit que ce raisonnement, il peut sembler pertinent avec certains produits. On se dit, il vaut mieux une production industrielle à grande échelle. Mais en fait, on sait très bien que, pour reprendre le cas des confitures, que les confitures qui sont produites en masse par des machines et juste quelques ouvriers de manière très centralisée, elles sont en général très mauvaises. Très mauvaises au goût et puis en partie très mauvaises pour la santé, bourrées de sucre. Tout ça pose des problèmes. Mais néanmoins, cette production centralisée, à cette méga machine industrielle, malgré tous les problèmes qu'elle pose, ce qu'elle permet, c'est en effet, c'est de, à chaque individu, c'est de gagner du temps. Cette production centralisée de mauvaises confitures plus ou moins pathogènes permet à toutes les familles de France qui ont décidé de renoncer à faire leurs confitures de ne pas utiliser quelques après-midi pendant leurs vacances ou leur week-end pour faire la confiture d'abricot, la confiture de prune et avoir des confitures maison à offrir à leurs enfants et à leurs amis. Et donc c'est ce gain de temps en effet qui est recherché éperdument parce que ben voilà, on se sent délivré, on se dit qu'on va pouvoir se consacrer à des activités plus réjouissantes ou plus intéressantes. Mais en pratique, aujourd'hui, on sait aussi que, en termes d'activités plus réjouissantes ou plus intéressantes, aujourd'hui, là, pour la plupart des gens, c'est de regarder des séries sur Netflix. Mais comme on passe toute notre journée déjà devant un ordinateur ou devant des écrans pour au travail, eh ben, il y a un côté à la fin abrutissant qui nous coupe littéralement de la vie, de la nature, de nos proches. Et en fait, on a envie de retrouver un petit peu le contact avec le monde, le contact avec les activités de base. Et ça passe justement par aussi le fait d'assurer une partie de sa subsistance.
Aurélien Berland, vous l'avez expérimenté, ce retour, cette fin de la méga machine. Hein. Vous êtes, j'ai essayé de vous appeler tout à l'heure sur votre portable. Et comme apparemment, il y a de la brume et de la pluie aujourd'hui, juste ça ne captait pas. Vous êtes dans votre petit potager, vous faites votre confiture. Ça a été du coup bénéfique pour vous?
Tout à fait. Moi, j'ai fait un pas de côté dans ma carrière universitaire en m'installant à la campagne, parce que j'étais aussi dans ces réflexions-là il y a plus d'une quinzaine d'années. Et je suis tout à fait heureux d'avoir fait ce pas de côté parce que j'ai l'impression de me consacrer à des activités qui font plus sens en produisant une partie des choses dont j'ai besoin pour vivre. Et ben je réduis mes besoins en argent, donc je réduis mes besoins aussi en travail salarié, et donc je peux me permettre de faire une traduction de temps en temps de consacrer une partie de ma vie à des activités aussi, on va dire, bénévoles ou qui ne rapportent pas forcément de l'argent, comme justement réfléchir, faire un long travail d'enquête philosophique sur la question de la liberté, sachant que quand on n'est pas enseignant-chercheur à l'université, ça ne rapporte pas grand-chose.
Mmh. Ce sujet-là de quête d'autonomie contre le fantasme de la délivrance a déjà été abordé très régulièrement dans nos sociétés à différentes époques. Et pourtant, on continue à avoir une certaine population réfractaire. A priori, seules les personnes qui ont déjà tenté l'expérience peuvent adhérer.
Il y a eu plusieurs vagues. Régulièrement, à différents moments de l'histoire, il y a eu des gens qui pointaient en fait les problèmes que je pose. Après, là, nous arrivons dans une situation vraiment sur le plan écologique, oui. On ne peut pas en rentrer dans les détails, mais moi, je fais partie d'un cercle de réflexion toulousain qui s'appelle l'Atelier d'écologie politique Atécopole de Toulouse, avec des scientifiques de toutes les disciplines, sciences dures, notamment physique, océanographie, biologie, géologie, etc. La situation est vraiment extrêmement préoccupante sur le plan écologique, et donc il va falloir que cette méga machine, on réussisse à la freiner, à l'arrêter, à la démanteler, parce que sinon elle va transformer la planète Terre en une cocotte minute, littéralement, et une cocotte minute en plus bourrée de produits toxiques et radioactifs. Donc il va falloir trouver autre chose, il va falloir reprendre en main une partie de nos activités et ne pas tout faire par des machines, des robots alimentés en énergie fossile ou nucléaire. Il va falloir trouver une solution. Sinon, ce problème, ces aspirations-là, elles se sont élevées à plusieurs reprises dans l'histoire. On pense à Giono, on pense aux années 60-70, à plein d'époques comme ça. Mais la méga machine industrielle, elle est tellement basée sur le fait de dire aux gens ne faites pas les choses par vous-même, on s'en charge, ça, on va beaucoup plus vite, laissez-nous faire et contentez-vous de regarder des séries à la télévision, ou voilà, que que c'est très difficile en fait de s'opposer quand il y a vraiment quand il y a tout un appareil de propagande industrielle, publicitaire, marketing et aussi des intellectuels qui vous disent sans cesse mais non, le progrès c'est de plus faire les choses par soi-même, c'est d'arrêter de faire les confitures soi-même, d'arrêter de faire son potager et de faire venir ses légumes de l'autre bout du monde et ses confitures de l'autre bout du monde aussi et de les faire par des machines et des robots, et c'est très dur de résister. Parfois on a l'impression d'être un gars, parfois on a l'impression de se tromper, c'est pas facile de pas être conformiste et donc là c'est aussi un appel à résister au conformisme qui caractérise la société de consommation.
Et c'est très dur de s'en extraire une fois qu'on est dedans. Votre livre Terre et Liberté, est-ce qu'il propose des solutions, peut-être un pas à pas pour doucement retrouver cette quête d'autonomie?
Oui, je pars de choses assez basiques. J'essaie de partir de l'idée que bien sûr nous en sommes très loin, et moi aussi je suis très loin d'être autonome matériellement, et d'ailleurs l'idée d'être autonome, en tous les cas l'autonomie, c'est pas se débrouiller tout seul sans les autres. Mm-mm. C'est pas du tout ça l'idée, c'est de renouer avec des formes de pratiques en circuit court, production locale, sans trop de mécanisation, etc. C'est plutôt ça l'idée. Et voilà, et donc oui, j'invite à partir de là où on est, compte tenu de ce qu'on est devenu dans ce et de ce que ce monde nous a fait de devenir, et de partir peu à peu, et ça implique de repenser ses besoins, de repenser les outils dont on a envie de se servir, le type de technologie ou de technique auxquelles on veut recourir au quotidien, le fait de repenser aussi les espaces autour de nous, la part de propriété privée, d'espace commun dans les communes, de se réapproprier aussi l'agir à l'échelle communale. Voilà plein de petites choses simples qui permettent juste de commencer à sortir un petit peu du filet de la méga machine et de renouer, de reprendre contact avec la vie autour de nous, avec les gens autour de nous, avec les producteurs autour de nous, les artisans, les paysans, directement nos voisins, pour un petit peu contourner toutes cette méga machine industrielle.
Possibilité de s'en sortir liée à la localité, à la temporalité, à l'entraide. Il faut prendre le temps de faire les choses qui sont faisables autour de soi, vous le disiez, dans des cercles politiques beaucoup plus réduits que devant notre télé.
C'est ça en fait. C'est les formes de vie autonome en fait. Il faut pas remonter à la préhistoire, il s'agit pas de ça du tout, ni même au Moyen-Âge. En fait, quand on pense à la France des années d'après-guerre, 1950, l'empreinte écologique de la population française était incomparablement moins forte qu'aujourd'hui. On était beaucoup moins prédateurs et on avait quand même un niveau de vie plutôt intéressant, mais juste beaucoup de choses se faisaient en circuit très court, en production locale, avec peu de machines ou des machines relativement simples que les gens savaient produire, réparer et que savaient construire eux-mêmes en partie, en tous les cas réparer, entretenir facilement, avec des sources d'énergie qui n'étaient pas le pétrole ou l'uranium, le pétrole d'Arabie Saoudite ou l'uranium du Niger. Et à notre connaissance, il y avait des inégalités
sociales
énormes et qu'il fallait combattre. Mais si on avait réussi à combattre ces inégalités, il y avait de quoi manger dignement, vivre dignement et mener une vie relativement sympathique pour beaucoup de gens. Selon les études, c'est à partir des années 70 en fait où la croissance continue du niveau de vie s'est fait au détriment de la qualité de la vie, c'est-à-dire le fait de consommer plus, de produire plus, n'engendrait plus de bonheur ou de satisfaction en plus chez les gens, mais plutôt un sentiment de plus en plus pénible de mal-être, de malaise qui a traversé les gens justement, moi je pense, en lien avec la perte d'autonomie et avec le sentiment de ne plus avoir aucune prise sur le monde qui nous entoure et sur la vie qu'on y mène. Donc il s'agit de renouer avec des choses qui étaient des pratiques qui étaient celles de nos grands-parents, des échelles de vie, des échelles d'organisation qui étaient une évidence pour tout le monde, qui était la vie normale. Beaucoup moins d'un siècle, il y a par exemple 50 ans ou 70 ans en France.
C'est vrai qu'après le burn-out, on a parlé du bore-out, donc là où on s'ennuie. Maintenant, il y a le brown-out, là où il y a une perte de sens qui rend le mal-être extrêmement fort. Il y a aussi je crois que le taux de suicide a augmenté de 300% ces derniers temps. Mais après, peut-être c'est lié aussi à la crise du Covid, une crise du Covid qui a aussi permis une espèce de retour à soi, à la terre, pour ceux qui en avaient la chance.
Oui, bah, y a même, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'un des discours de notre président il y a presque bientôt 2 ans, un des premiers discours qui était lié en fait au constat qu'on avait décidé de faire produire des choses aussi essentielles que des masques de protection et un certain nombre de produits de médicaments à l'autre bout du monde, en l'occurrence en Inde. Et donc, on s'était rendu compte de ça, et puis ça avait fait un électrochoc pour tout le monde. On s'est dit, ah oui, mais en fait, on est complètement dépendant de la Chine pour toute l'électronique, on est complètement dépendant de l'Inde pour tous nos médicaments, on est complètement dépendant de je ne sais quel pays pour une bonne partie des autres produits, etc. C'est-à-dire, on est devenu littéralement totalement dépendant d'une méga machine mondiale. Et donc, quand un virus demande de l'arrêter au moins momentanément pour éviter une propagation éclair à travers le monde, et ben ça pose des problèmes d'approvisionnement colossaux, et ça pose des problèmes du coup de santé colossaux. Et donc Monsieur Macron avait dit nous avons délégué nos conditions nous avons compris que nous avions délégué nos conditions de vie à grande distance et que c'était une folie. C'était le mot folie qui l'utilisait. Ben voilà, moi je pars de cette idée-là. En effet, c'est une folie de ne pas vouloir se préoccuper un minimum de son habitat, de sa région, de son potager, de sa subsistance. Et j'invite tout le monde à avoir ces pratiques d'autonomie, à renouer, comme ça se fait de plus en plus de nos jours, avec ces pratiques très simples qui permettent de redonner prise un petit peu sur son quotidien et de se réancrer là où on vit, plutôt que de vivre dans le cyberespace et dans un monde sans contact, entièrement numérique, où en effet on se fait tout livrer en un clic, mais on n'est plus en lien ni avec personne, ni avec des êtres humains concrets, ni avec des activités, ni avec le monde dans lequel on vit et les activités qui s'y trament.
La quête d'autonomie contre le fantasme de la délivrance. À travers ce livre, donc Terre et Liberté, publié aux éditions La Lenteur et écrit par vous-même, Aurélien Berland, vous serez là à la librairie Le Tracteur Savant de Saint-Antonin-Nobleval ce jeudi 24 à partir de 18h30 pour des lectures, des discussions, des dédicaces, bien sûr. Il faut réserver sa place auprès du Tracteur Savant. On peut retrouver plein d'informations sur www.letracteursavant.com. .com ou .fr, les deux marches. Aurélien Berland, on vous y retrouve ce jeudi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.